Le journal, Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Des détonations en ce moment à la prison de Condé-sur-Sarthe où un détenu et sa compagne sont retranchés depuis ce matin. Le raid serait en train de donner l'assaut. Le prisonnier a grièvement blessé deux surveillants à coups de couteau. Le parquet antiterroriste est saisi. Nous serons sur place évidemment. Carlos Ghosn peut être libéré demain à Tokyo. Libération sous caution et condition. Près de 8 millions d'euros et des caméras dans son logement, notamment interdiction de quitter le Japon. Vous entendrez son avocat français. Au sommaire également ce soir, les mesures du gouvernement pour les angles morts, des dépenses des ménages, permis de conduire, pièces détachées automobiles ou encore syndic. Les étudiants algériens dans la rue, toujours contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, nous serons à Alger. Le hacker à l'origine des Football Leaks, bientôt extradé vers le Portugal. Et au téléphone sonne Pierre.
La réforme de l'assurance chômage. Après l'échec des négociations entre les partenaires sociaux, l'État a repris la main et promet des décisions. Au printemps, le gouvernement veut que l'UNEDIC économise 1 milliard d'euros par an. Quelle révision des règles d'indemnisation? Vos questions au 01 45 24 7000 et sur le site de l'émission franceinter.fr.
C'est donc une attaque terroriste qui se déroule depuis maintenant plus de 9 heures à la prison d'Alençon dans l'Orne. Les mots sont de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, et le parquet antiterroriste s'est très vite saisi du dossier. Un détenu radicalisé a donc poignardé deux surveillants ce matin avant de se retrancher dans l'unité familiale de la prison avec sa compagne. Bonsoir Laurélie Carrive.
Bonsoir.
Et le raid serait en train de donner l'assaut en ce moment?
Exactement, l'assaut a été donné il y a quelques minutes par le raid, dépêché sur place avec les unités d'intervention de l'administration pénitentiaire. Faute d'avoir réussi à établir un dialogue avec le couple, les policiers du raid ont donc décidé d'intervenir. Depuis 9h45 ce matin, le détenu était retranché avec sa compagne dans l'unité de vie familiale. C'est un appartement tout équipé, situé dans l'enceinte de la prison et qui permet aux personnes incarcérées de recevoir leurs proches pour maintenir le lien. Ce que nous dit un syndicat pénitentiaire, c'est que la jeune femme aurait appelé les surveillants en invoquant un malaise lié à sa grossesse. À leur arrivée, les deux hommes reçoivent des coups de couteau. D'après une source, ils auraient entendu crier « Allahu Akbar ». L'un est grièvement blessé à l'abdomen et au thorax, l'autre au visage. Ils ont tous les deux été hospitalisés à Alençon. Leurs jours, nous dit-on, ne sont pas en danger.
Alors on va aller sur place dans un instant, mais d'abord voyons avec vous le profil de cet homme. Il purge une peine de 30 ans et il a déjà un lourd passé judiciaire.
Ouais, Michael Kiolo, c'est son nom, a été condamné pour avoir séquestré, torturé et tué un octogénaire qu'il était venu cambriolé avec deux complices à Montigny-lès-Metz il y a 7 ans. L'homme était un ancien résistant rescapé du camp d'extermination de Dachau. Une autre condamnation pour apologie du terrorisme s'est ajoutée à son casier il y a un peu plus de 3 ans. Dans la cour de la maison d'arrêt de Mulhouse où il se trouvait à l'époque, il avait demandé à ses codétenus de rejouer l'attaque du Bataclan. On était le lendemain des attentats. Michael Kiolo, 27 ans, s'est converti à l'islam en 2010. Fiché, mais pas placé à l'isolement ni dans le quartier pour détenus radicalisés. Selon son avocate, c'est en prison qu'il aurait rencontré sa compagne. Est-ce la jeune femme qui a fait entrer le couteau en céramique dans l'enceinte de l'établissement sans faire sonner les détecteurs de métaux? C'est l'une des possibilités, a dit tout à l'heure la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Elle a demandé une inspection pour faire toute la lumière sur cette attaque.
Alors, merci Laurélie Carrive. Allons sur place à Condé-sur-Sarthe retrouver Jérôme Jadot. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Vous nous confirmez des détonations devant la prison, à l'intérieur même de la prison?
Oui, plusieurs séries de détonations. Cela a commencé il y a environ une vingtaine de minutes, une dizaine de détonations, puis quelques autres il y a encore 2 ou 3 minutes. Une intervention est bien en cours, c'est ce que confirme une source proche du dossier. On a également vu pénétrer à l'intérieur de l'enceinte de cette prison au mur blanc et au mirador 3 fourgons noirs avec leur gyrophare bleu allumé. Une intervention qui corrobore les propos tenu par un syndicaliste de FO pénitentiaire il y a environ une demi-heure, qui est venu dire quelques mots à la presse et qui indiquait que le couple était très déterminé, qu'il refusait de collaborer avec le raid et qu'il disait vouloir mourir en martyr. Un syndicaliste qui a également raconté une attaque très violente ce matin à l'encontre de deux de ses collègues, une attaque où l'homme et la femme auraient porté des coups de couteau, y compris à un des deux surveillants travaillant à terre, attaque lors de laquelle les mots Allahou Akbar auraient été prononcés.
Oui, les syndicats de surveillants décrivent une scène de champ de bataille dans l'unité de vie familiale de la prison. Merci Jérôme Jadot avec Laurent Lucas devant la maison de le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Certains gardiens ont retardé leur prise de service cet après-midi dans certains établissements. Tous sont appelés à des blocages dès demain matin en soutien aux agents poignardés et pour réclamer plus de moyens. Voici Johan Carrard, secrétaire général adjoint de FO Pénitentiaire, le principal syndicat du secteur.
Le renseignement pénitentiaire fait son travail, là-dessus il n'y a pas de souci, il fait du recueil, mais la base de notre métier, c'est en établissement. Quand on voit sur des structures comme Fresnes ou Fleury, où un surveillant gère entre 100 et 150 détenus, vous comprendrez quand même qu'on ne peut pas faire de la sécurité telle que l'on attend de notre mission. Donc oui, effectivement, il nous faut des moyens sur le terrain, des moyens au quotidien, et malheureusement, nous ne les avons pas. Donc là, notre organisation syndicale, qui est majoritaire au sein de l'administration pénitentiaire, avons décidé dès demain de partir en mouvement social avec un blocage total de tous les établissements et nous continuerons à faire ce que l'on doit faire pour obtenir ce qui nous est dû.
L'assaut est donc en cours en ce moment à la prison de Condé-sur-Sarthe. Nous retournons sur place s'il se termine d'ici la fin de ce journal. Et vous venez d'entendre Johan Carrard, secrétaire général adjoint de FO, pénitentiaire principal syndicat du secteur. Lui s'était radicalisé avec son frère au début des années 2000. Le djihadiste français Jean-Michel Klein aurait été tué en Syrie 2 jours après son frère Fabien le mois dernier. C'est son épouse qui l'affirme à l'agence France Presse. Elle vient de quitter le village de Baghouz, dernière poche du groupe État islamique en Syrie, à la frontière avec l'Irak. Toujours à propos de la Syrie, voici une décision de justice très rare. L'ancien directeur général de Lafarge n'est plus poursuivi pour financement d'une entreprise terroriste. Il a obtenu la levée de sa mise en examen. Bonsoir Jean-Philippe Deniaud.
Bonsoir Sébastien.
Il fait partie des 8 anciens cadres ou dirigeants du cimentier qui est soupçonné d'avoir payé le cimentier, notamment le groupe État islamique, pour continuer à faire tourner son usine de Jalabiya jusqu'en 2015.
Oui, et Lafarge qui est lui aussi mis en examen en tant que personne morale pour complicité de crimes contre l'humanité, financement du terrorisme, mise en danger de la vie d'autrui et violation d'un embargo. Lafarge et ses anciens dirigeants sont soupçonnés d'avoir maintenu l'activité de l'usine de Jalabiya pendant 4 ans en payant des taxes pour assurer la sécurisation des salariés, des marchandises, pour acheter des matières premières et pour rémunérer des intermédiaires. Au total, 13 millions d'euros auraient ainsi rempli les caisses de plusieurs groupes armés, dont ceux de l'État islamique. Parmi les 8 anciens dirigeants de Lafarge mis en examen pour financement du terrorisme, dont l'ancien PDG Bruno Lafont. L'un d'entre eux est donc en quelque sorte blanchi aujourd'hui, l'ex-directeur général Eric Olsen. Il a constamment affirmé qu'il n'avait à cette époque aucun pouvoir de décision sur les activités de Lafarge dans cette région. « Mon honneur est lavé », écrit-il aujourd'hui dans un communiqué. L'ONG Sherpa, qui est partie civile dans ce dossier, souligne ce soir que c'est le rôle d'un juge d'instruction d'instruire à charge et à décharge et que la démise en examen d'un des suspects donne encore plus de poids au maintien des mises en examen des autres cadres du groupe.
Jean-Philippe Deniaud, Eric Olsen reste mis en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Les côtes syriennes en Méditerranée orientale, c'est sa première destination. Nous parlions de la Syrie à l'instant. Le porte-avions Charles de Gaulle est reparti en mission ce matin après plus d'un an et demi de révision à Toulon. Il va passer un mois au sein de l'opération Chamal, le volet français de la coalition internationale contre Daesh. Et Nathalie Hernandez est montée à bord pour France Inter.
Plus de 40 000 tonnes d'acier et de haute technologie à manœuvrer. Il a fallu une vingtaine de minutes pour faire sortir du port de Toulon ce géant des mers. Avec ses 261 mètres de long, 2000 personnes à son bord, il est accompagné pour cette mission Clémenceau d'une huitaine de bâtiments de ravitaillement et de protection, dont un Danois et un Portugais. Première étape, un mois en Méditerranée, au large de la Syrie, a annoncé la ministre des Armées, Florence Parly, venue donner le coup d'envoi.
Nous savons bien que Daesh n'est pas mort et donc nous voulons absolument pouvoir, dans le cadre de cette coalition, terminer le travail.
Direction ensuite l'océan Indien. Tout au long de son périple, les 20 rafales marines vont décoller et se poser sur le porte-avions, le catapultage et l'appontage. Deux missions délicates, comme l'explique le lieutenant de vaisseau Benoît, pour qui c'est une première.
Le premier jour, c'est un petit peu un saut dans l'inconnu. Où on sait qu'on maîtrise la théorie. Maintenant, il faut mettre la pratique en œuvre. Et là, donc, on se retrouve tout seul dans l'avion. Et puis, finalement, ça se passe bien parce qu'on a toute une équipe autour de nous qui est là pour nous aider et nous soutenir dans cette première épreuve.
Un travail d'équipe 24 heures sur 24, c'est aussi le bâtiment de la marine le plus féminisé avec 204 femmes à son bord. À bord du porte-avions Charles de Gaulle, Nathalie Hernandez, France Inter.
19h10, le journal Sébastien Paour. Sébastien, Carlos Ghosn devra verser 1 milliard de yens pour sortir de prison.
Oui, c'est près de 8 millions d'euros de caution pour l'ancien PDG de Renault qui est détenu au Japon depuis 3 mois et demi, mais qui devrait pouvoir sortir demain. Le tribunal de Tokyo accepte de le remettre en liberté et l'appel du parquet est donc rejeté. Carlos Ghosn se dit de nouveau innocent, résolument déterminé à se défendre vigoureusement. Fin de citation. Et son avocat français, Jean-Yves Le Borgne, n'attend plus que de verser la caution désormais.
Je ne sais pas à quel moment précisément ce paiement sera fait. Comment les Japonais considèrent-ils que le paiement est fait? Est-ce qu'un chèque pur et simple suffit? Est-ce qu'il faut un virement? Comment les choses doivent-elles être reçues?
L'argent est prêt?
Les dispositions ont été prises pour que la libération arrive vite.
Concrètement, il va se passer quoi lorsque Carlos Ghosn sera libéré?
Il est obligé à résider au Japon et à ne pas en bouger. Ce qui a été proposé par l'avocat, c'est un système de surveillance par caméra. C'est un lieu où il aura la possibilité de vivre dans des conditions de confort normal, ce qui va le changer après ces 100 jours de détention. A priori, sur le plan judiciaire, c'est fait. Il resterait une dernière hypothèse à laquelle je n'ose croire, c'est que le procureur trouve un nouveau chef de prévention et le poursuive à nouveau. Il a déjà utilisé ce stratagème. Je pense qu'il hésitera à réitérer une action qui serait indiscutablement une forme d'acharnement.
L'avocat français de Carlos Ghosn, maître Jean-Yves Le Borgne, avec Philippe Rendé. Ford payera les 20 millions d'euros demandés par l'État pour son départ de Blanquefort. C'est Bruno Le Maire qui l'affirme, le ministre de l'économie, après l'homologation du plan social de l'usine de boîte de vitesse. Le site qui emploie 850 salariés fermera en août. La CGT va contester en justice ce plan de sauvegarde de l'emploi. Pas de changement pour Bernard Arnault. Le PDG de LVMH reste l'homme le plus riche de France et la quatrième fortune du monde derrière Jeff Bezos, Bill Gates et Warren Buffett. Presque 67 milliards d'euros pour Arnault, selon le classement annuel du magazine américain Forbes. L'héritière de L'Oréal, Françoise Bettencourt-Meyers, demeure la femme la plus riche de la planète. Le fondateur de Kering, François Pinault, est sur la troisième marche du podium tricolore.
Sébastien, c'est l'une des revendications principales des Gilets jaunes, 3 mois après le début du mouvement.
Le pouvoir d'achat, et pour s'attaquer à ces angles morts aux dépenses contraintes qui plombent le budget des ménages, et qui s'apparentent, d'après Édouard Philippe, à des impôts cachés, le Premier ministre annonce une série de mesures. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Dans les secteurs du transport et du logement notamment.
Et première mesure, elle concerne les Français qui ne peuvent se passer de leur voiture et qui font face au besoin de changer souvent un rétroviseur, un capot, une vitre à leur véhicule.
C'est un budget important pour les ménages gros rouleurs, comme on les appelle.
Et ce budget augmente chaque année. La cause pour Matignon, une sorte de monopole qu'ont les constructeurs automobiles. Il faut la plupart du temps passer par eux, sans possibilité de recours à un sous-traitant. Et ça, il faut que ça change pour le gouvernement.
Deuxième sujet, le permis de conduire.
Sur ce sujet-là aussi, les apprentis conducteurs doivent pouvoir juger de la qualité d'une auto-école au moment de la signature du contrat, pour éviter les dépassements inattendus.
Nous allons mettre en place très rapidement un comparateur du permis de conduire pour que les candidats puissent choisir de manière éclairée entre des offres qui peuvent parfois varier du simple au double.
Enfin, autre mesure, elle concerne les syndics de copropriété, souvent mis en cause par les associations de consommateurs.
En principe, les AG de copropriétaires doivent tous les 3 ans mettre les syndics en concurrence. Dans les faits, si je demande qui ici a récemment changé de syndic, il n'est pas impossible que l'assistance reste calme.
Sur ce point, le gouvernement veut que les copropriétaires soient mieux informés et que des sanctions financières puissent être prononcées contre les syndics qui abuseraient de leur position.
Des mesures à retrouver sur franceinter.fr. Merci Maxime Debs. Emmanuel Macron participera lui jeudi à son 10e débat en PACA sur le thème de l'environnement. Le président veut réussir sa sortie du grand débat et gagner les européennes dont il vient de lancer la campagne pour son camp avec sa tribune aux citoyens européens qui lui vaut le ralliement de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et du mouvement Agir de Franck Riester, le ministre de la Culture et de la Communication. Le décor de la campagne européenne d'En Marche est planté. Et c'est une très bonne chose pour le député de la majorité, Olivier Véran.
Il rappelle à juste titre qu'on a besoin de l'Europe, que l'Europe est un bien précieux et en même temps qui est un bien qui peut devenir fragile. La montée des populismes en Europe, on connaissait déjà la Hongrie de Viktor Orban, l'Italie de Salvini, etc. On voit bien que le nombre de pays qui défendent encore mordicus l'état de droit en Europe, qui est pourtant la base de la construction européenne, ce nombre se restreint un peu à peu. Finalement, le plus grand risque que court l'Europe, c'est de ne plus être aimé par ses peuples. Et que quand on commence à ne plus aimer l'Europe, quand on ne sait plus pourquoi on est européen, on peut en perdre le sentiment de légitimité qu'est le continent européen et sa construction pour nous citoyens. Et là, ça devient dramatique. Et donc, c'est très impactant que ce soit traduit en 24 langues, que ce soit publié dans tous les pays européens. Ça montre bien que la France aussi aspire légitimement à retrouver ce leadership qu'elle a pu avoir lors de la construction de l'aventure européenne. Merci.
Réponse du député Les Républicains Robin Reda. Emmanuel Macron brasse de l'air là où Nicolas Sarkozy agissait.
J'ai trouvé dans la tribune d'Emmanuel Macron exactement la même chose que depuis 2 ans avec le président de la République, c'est-à-dire uniquement des mots, des paroles, des intentions, et jamais finalement de concret et d'actes. C'est ce qui le différencie en tout point d'un Nicolas Sarkozy qu'il voudrait imiter par exemple pour ses élections européennes. Nicolas Sarkozy a fait le traité de Lisbonne, avait résolu la crise en Géorgie. Emmanuel Macron n'a fait que des discours sur l'Europe. Il s'est baladé dans les pays de l'Union européenne, mais il n'a pas réussi à s'imposer sur la scène européenne. Et s'il n'arrive pas à s'imposer, c'est parce que la France n'est pas crédible. Parce qu'on a le pire déficit de la zone euro, parce qu'on n'arrive pas à maîtriser nos frontières. Et on voit bien qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron isole la France.
Dossier signé Karine Bécart à l'Assemblée. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, salue lui la contribution importante de Macron au débat européen. Bruxelles qui appelle au respect de la liberté d'expression. En Algérie, où les manifestations hostiles à la 5e candidature d'Abdelaziz Bouteflika se poursuivent, plusieurs milliers d'étudiants ont encore défilé aujourd'hui dans plusieurs villes du pays. Et à Alger, où se trouve pour Inter Leïla Berato.
En milieu de matinée, ils sont plusieurs milliers réunis dans le centre de la capitale. La place Maurice Audin est quadrillée par les forces anti-émeutes. Ces étudiants qui ne se sont pas rendus dans les facultés aujourd'hui protestent contre le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Des pancartes dessinées au feutre demandent de laisser la place aux jeunes. Drapeau enroulé autour des épaules, Bilal, 20 ans, est venu pour faire entendre sa voix.
On a vécu dans un système qui n'a pas changé depuis 20 ans. On sait bien que ça ne marche pas et on en a marre. On veut vraiment un changement et on l'aura. Vraiment, on l'aura.
Pourtant, il est candidat pour un 5e mandat.
Oui, mais le peuple ne va pas accepter. Et le peuple est fort.
Un peu plus tard, les forces de l'ordre laissent les étudiants se diriger vers la Grande Poste et bloquent la circulation. Dans les rues devenues piétonnes, les étudiants continuent de chanter, fabriquent de nouvelles pancartes et parviennent à se rassembler sur les marches de la Grande Poste sous une immense bannière « Nous ne voulons pas » du 5e mandat. La manifestation finit par se disperser vers 17h. À Alger, Leïla Berato, RFI pour France Inter.
L'armée sera le garant de la stabilité face à ceux qui veulent un retour de l'Algérie aux années de guerre civile, aux années de braise, assure de son côté son chef d'état-major. La nuit prochaine sera-t-elle aussi agitée que les précédentes à Grenoble? Des échauffourées entre forces de l'ordre et habitants du quartier du Mistral après la mort de 2 jeunes qui tentaient d'échapper à un contrôle de police sur un scooter samedi soir. Bilan d'hier, un homme de 25 ans interpellé pour des jets de projectiles sur la police et 65 véhicules incendiés. Le préfet de l'Isère, Lionel Beffre, appelle au calme au micro de Gérard Fourgeot de France Bleu Isère.
Tous ces événements sont nés d'un accident de la route qui a coûté la vie à 2 jeunes gens. Évidemment, nous comprenons la douleur de la famille, des proches de ces 2 jeunes. Mais en même temps, on voit bien que depuis 3 jours, il y a une dérive complète, des comportements qui sont inadmissibles et qui, au fond, ne se justifient aucunement. On ne peut pas comprendre qu'il y ait 3 jours de suite ces violences dans le quartier Mistral. Et c'est pourquoi moi j'appelle au calme, à l'apaisement, parce que ces violences ne déboucheront sur rien de bon. Parce qu'on voit bien que dans cette affaire, nul n'a intérêt à ce que ces épisodes de violence se poursuivent.
Les plaignants du Levothyrox déboutés de leur action contre Merck, 4113 malades de la thyroïde qui poursuivaient le laboratoire pour défaut d'information dans le changement de formule du médicament. Ils sont déboutés de leur action collective par le tribunal de Lyon qui estime qu'en matière d'information, Merck n'a commis aucune faute. L'établissement français du sang appelle au don. Les stocks de produits sanguins sont trop faibles. Les centres de prélèvement ont été très peu fréquentés ces dernières semaines, notamment à cause des épidémies de saison.
C'est le Nobel de l'architecture.
Le prestigieux prix Pritzker, qui revient cette année au japonais Arata Isozaki, à qui l'on doit des projets sur les 4 continents, comme l'arène couverte Palau San Jordi pour les Jeux Olympiques de Barcelone, c'était en 92, ou le musée d'art contemporain de Los Angeles en 86. Arata Isozaki a 87 ans. Lui est à l'origine des Football Leaks, ces révélations qui ont conduit plusieurs pays européens à ouvrir des enquêtes sur des malversations dans le monde du ballon rond. Le hacker portugais Rui Pinto devrait être extradé vers son pays. La justice hongroise où il s'était réfugié l'ordonne. Lisbonne l'accuse de tentative d'extorsion aggravée et de vol de données. Amaya Cazenave.
Les avocats du jeune Portugais le présentent comme un important lanceur d'alerte. Ce matin, dans un tribunal de Budapest, Rui Pinto a affirmé avoir agi de façon totalement désintéressée. Il a piraté des millions de fichiers relatifs au monde du foot business dans le but de dévoiler les dessous d'une industrie qu'il juge malhonnête. Parmi ces dossiers, les petits arrangements fiscaux de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ou l'affaire du fichage ethnique du PSG. Mais ces arguments n'ont pas pesé bien lourd face à la présidente du tribunal hongrois, qui lui a opposé la coopération européenne entre le Portugal et la Hongrie en matière de justice. Lisbonne accuse Rui Pinto d'avoir volé des données. S'il est extradé, ses avocats assurent qu'il n'écopera pas d'une peine trop lourde, étant donné qu'il travaille avec d'autres pays européens, comme le parquet national financier français, très intéressé par ses fichiers. Le hacker, qui est aujourd'hui derrière les barreaux, va faire appel de cette extradition.
Une image pour finir, Pierre, des mannequins debout en silence dans un paysage de chalets enneigés. Une minute de silence et une ovation debout pour la dernière collection Karl Lagerfeld chez Chanel. C'était ce matin sous la verrière du Grand Palais à Paris. Cara Delevingne en tête sur le podium, Claudia Schiffer au premier rang et le morceau Heroes de David Bowie pour clore le dernier défilé signé du couturier allemand.
Heroes, David Bowie, c'est parfait, beau, magnifique. Hein, parfait. C'était le journal de Sébastien Paour, hein, demain soir, 19h, Sébastien.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
La météo, c'est avec Élodie Calac. Élodie, la pluie revient par l'ouest.
Elle arrive dès ce soir par la Bretagne. Alors demain, il pleuvra des Pays de la Loire vers la Normandie, le nord de la Seine le matin, jusqu'à l'Aquitaine, au bassin parisien, au centre et à Champagne-Ardenne l'après-midi. La Bretagne et le Cotentin retrouveront tout de même un ciel plus changeant avec encore quelques averses. Entre midi, Pyrénées, l'Auvergne, le nord des Alpes et le nord-est, là, le soleil sera bien voilé. Et puis la pluie arrivera pour la soirée. Enfin, entre le Languedoc et le sud des Alpes, des nuages, quelques pluies dès le matin et des pluies plus conséquentes sur les Cévennes.
Et il y aura encore du vent.
Ça soufflera quasiment partout, jusqu'à 90 km à l'heure même sur le sud-est, 80 sur la côte basque, 100 à 120 km à l'heure sur les Pyrénées où il neigera vers 2000 mètres. Les températures seront en hausse douce, déjà 8 à 15 degrés à l'ouest le matin, seulement 2 à 10 à l'est et même moins 2 à Grenoble. Et puis l'après-midi, 12 à 20 degrés sur la moitié nord et 15 à 22 au sud.
Élodie Calac de Météo France.